Et je donne la première présentation. Je vais donc faire une introduction très brève. Je suis hématologue-oncologue, chercheur en recherche fondamentale, beaucoup dans le domaine de la thérapie génique. La raison pour laquelle je me trouve sur le podium aujourd'hui est que j'ai été pendant 19 ans président d'un comité d'éthique d'un centre universitaire et pendant 14 ans, président du bureau d'éthique qui coordonnait les 9 comités d'éthique de 5 hôpitaux universitaires. On m'a demandé de me parler aujourd'hui de la professionnalisation des comités d'éthique, probablement parce que c'est un concept que j'ai soulevé à multiples reprises lors de discussions sur l'organisation de l'éthique de la recherche au Québec. Par contre, je voudrais d'emblée souligner que quand je parle de professionnalisation des comités d'éthique, ce n'est pas par mépris ou dédain pour le travail extraordinaire que un nombre incroyable de bénévoles ont fait au Québec comme ailleurs dans le domaine de l'éthique de la recherche. J'ai eu le plaisir de travailler avec des membres de comités d'éthique qui l'avaient été pendant 25 ou 30 ans et leur dédication, pardon, à ce travail m'a toujours beaucoup impressionné. Je suis pas avocat, mais quand même, je pense qu'il est bon de s'entendre sur certains termes avant d'en discuter. Alors, je me suis tourné vers Larousse, qui nous dit que professionnaliser, c'est assimiler une activité à une profession, faire qu'elle devienne une profession. Jusqu'ici, ça ressemble beaucoup aux définitions du dictionnaire qui nous envoie toujours à une autre définition. Une profession, c'est une activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa vie. C'est aussi un métier de caractère intellectuel, artistique, etc., qui donne une position sociale plus ou moins prestigieuse. Une profession, c'est aussi l'ensemble des personnes qui exercent un même métier. Le professionnalisme, dont on parle de plus en plus dans les milieux médicaux et d'autres sphères professionnelles, c'est le statut de quelqu'un qui exerce une activité, un métier, en tant que professionnel expérimenté. Et c'est aussi la qualité de quelqu'un qui exerce une activité avec une grande compétence. À cela, il y a des corollaires. Généralement, pour exercer une profession, il y a une éducation préalable et il y a des attentes d'éducation continue. Il y a un code de conduite, avec généralement des conséquences si on s'en éloigne, et un contrôle de la qualité de l'acte professionnel. Comme prémisse, je dirais que je pense que tout le monde va être d'accord avec moi pour dire que le droit de poursuivre des activités de recherche médicale dans notre société est depuis longtemps régi par des règles strictes. Et entre autres, ce droit-là n'est donné qu'à des membres qui ont la compétence professionnelle établie, les qualifications pour faire la recherche dans le domaine qu'ils proposent. Les centres de recherche, les organismes subventionnaires, les organismes de réglementation comme Santé Canada, et je dirais aussi des collègues comme la Commission d'accès à l'information, et j'en passe, emploient tous des professionnels qualifiés, rémunérés et qui peuvent se consacrer à temps plein à leurs activités. Je soumets que les comités d'éthique de la recherche gagneraient à être constitués de membres professionnels pouvant similairement se dédier entièrement à leurs fonctions. Pourquoi, au fait, les CER sont-ils uniques dans l'organisation de l'entreprise de recherche? à fonctionner largement de façon bénévole. Je pense que cela tient au fait que lorsque les comités d'éthique institutionnels ont été créés en réponse avec les crimes de guerre de la Deuxième Guerre mondiale et d'autres cas d'inconduite scientifique, il y avait à l'époque une perception que si on était payé pour faire quelque chose, ça pouvait compromettre notre objectivité, notre professionnalisme. Je soumettrai que, en 2014, si on doit douter du professionnalisme de tous ceux qui sont payés pour faire leur travail, on aura un léger problème. En 2004, et puis par la suite en 2007, de façon revue, le ministère de la Santé et des Services sociaux ont amené une clarification, par contre, à cela en introduisant le cadre de référence des dépenses de fonctionnement admissibles des CER. Et il était dit dans ce cadre, il est écrit, tous les membres du CER doivent être dédommagés pour la préparation et les participations aux réunions. On mentionne une exclusion pour les membres qui seraient dédommagés déjà de par leur fonction à l'institution ou à l'université. Je fais partie des quelques personnes privilégiées qui, effectivement, a toujours été compensé par des tierces parties pour le travail que je faisais en éthique. Mais je dois vous dire qu'au cours des dernières années, avec l'abolition des postes d'agrégation dans les universités, avec les coupures de postes, avec les surcharges de travail, je connais pas grand monde dans un hôpital ou une institution qui n'est pas débordé de par son travail et qui, en acceptant un poste au comité d'éthique, accepte pas une charge de travail additionnelle très significative, non seulement pour les réunions du comité, mais pour la préparation et pour certains membres, le suivi. Je pense aussi la plupart d'entre vous seraient d'accord avec moi pour dire qu'on peut pas avoir les mêmes attentes d'un membre bénévole que celles qu'on aurait vis-à-vis un consultant par contrat ou un employé de l'institution à qui on pourrait appeler plus facilement pour dire ben ce soir il faut qu'on ait une réunion d'urgence parce qu'il y a un projet très pressant qui doit être revu. Pendant ce temps, le mandat des comités d'éthique évolue tranquillement. Quand j'ai pris mes fonctions en 94, le mandat qui était écrit, qui venait du conseil d'administration, était assez simple, mais quand même assez correct, assez complet, qui disait que notre rôle, c'était de protéger le bien-être et les droits des sujets de recherche. En apparence, on a précisé ce mandat par la suite, mais en le précisant, on l'a beaucoup restreint, en fait. C'est bien que maintenant, quand on va aux énoncés des trois conseils ou dans d'autres guides applicables, on va nous dire que le mandat des comités d'éthique est d'évaluer les travaux de recherche au nom de l'établissement, c'est-à-dire largement faire la revue initiale du projet et ensuite en faire le suivi. Il y a beaucoup moins de place qui a été occupée par d'autres aspects de la protection des sujets de recherche dans ces mandats. Jusqu'à récemment, ces mandats-là, on les acceptait pour notre institution, pour les projets conduits sous les auspices de notre institution. Mais comme on a vu hier avec la présentation de Richard Carpentier et ce matin avec la présentation du nouveau cadre pour la recherche, la revue des projets multicentriques, les comités d'éthique deviennent maintenant responsables de projets qui vont avoir cours dans plusieurs institutions. Donc, on augmente sensiblement la portée, la responsabilité du mandat des comités d'éthique. Inutile de s'étendre sur le fait que les règles vont se complexifiant et sont modifiées fréquemment et que, en fait, sur les comités d'éthique, il y a peu de membres qui sont à peu près à jour dans leur connaissance des règles applicables à l'égard de beaucoup d'aspects des projets soumis. J'ai préparé ceci avant d'avoir même regardé le cadre, le nouveau cadre qui est sur le site de l'unité d'éthique. Mais sachant très bien qu'on se dirigeait vers une revue unique au Québec pour des projets multicentriques. Et j'aimerais argumenter qu'en échange de la multiplicité des revues, qui peut-être nous donnait la chance qu'un comité X attrape un aspect important que le comité Y avait échappé, que lorsqu'il y a une seule revue, il faut que cette revue-là soit très rigoureuse et exhaustive, et il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent qu'il laisse passer des gros morceaux dans la revue de l'éthique. Je dirais donc que ce nouveau système crée une opportunité, sinon une nécessité de consolider et renforcer les expertises des CER. Et je dirais que le temps est très opportun pour aller de l'avant avec ce que je qualifie de la professionnalisation des comités d'éthique. L'expertise attendue des comités d'éthique est d'une part spécialisée et d'autre part très diverse. Et beaucoup d'intervenants ont des attentes importantes vis-à-vis de nous. Le public assume que nos comités d'éthique sont vraiment efficaces dans leur protection des sujets de recherche. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, les sujets potentiels nous disent, « Mais docteur, si vous pensez que c'est bon, puis le comité d'éthique a dit que c'était bon, je n'ai pas besoin de lire ça. » Et bien qu'on ne puisse pas accepter que les sujets potentiels ne prennent pas pleine responsabilité dans la mesure du possible de leur décision de participer ou pas, je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux la confiance qu'ils mettent en nous lorsqu'on fait la revue d'un projet de recherche. Les autres partenaires de l'entreprise de recherche sont dans beaucoup de cas obsédés par la question d'efficacité. Il a été décrété que l'inefficacité de la revue et de la recherche clinique et de sa mise en branle était la responsabilité des comités d'éthique. Et ça, c'est pas seulement au Québec, c'est au Canada, c'est partout. Dans les dernières 10 années, s'est dégagé un consensus que les comités d'éthique étaient responsables. Et puis, les solutions qui sont amenées maintenant sont beaucoup basées sur la prémisse que c'est le cas. Espérons que l'expérience sera concluante, mais à tout effet, on peut peut-être en profiter pour greffer à cela des éléments qui seraient utiles et importants. Pour revenir au sujet de recherche qui compte beaucoup sur nous pour faire notre travail avant que le projet leur soit présenté, il m'a toujours intrigué de voir combien nos institutions et nos comités d'éthique étaient réticents à ce que on annonce, qu'on indique même que l'approbation du comité d'éthique constituait un certain saut de gage de sérieux, de professionnalisme, de sécurité. L'argument le plus fréquent évoqué pour le contraire, c'est qu'il ne faudrait pas indûment influencer le sujet de recherche en lui disant que ça doit être bon parce que le comité l'a accepté. Mais je pense qu'il y a un petit peu plus d'insécurité que ça au niveau des comités d'éthique qui explique la chose. Quand je dis professionnaliser, c'est ce que je proposerais, c'est pas simplement de se mettre à payer les membres, d'offrir des contrats formels avec l'institution, mais c'est de repenser comment ces comités d'éthique-là, qui auront des charges, des responsabilités plus larges, pourront le mieux possible accomplir leur mandat. Encore une fois, j'ai préparé tout ça avant d'écouter mes collègues ce matin, juste avant le lunch. Mais à mon avis, et de l'avis de d'autres, l'évaluation scientifique rigoureuse est nécessaire et primordiale et devrait continuer à se faire avant l'évaluation éthique, puisqu'elle contribue de façon très centrale au débat éthique. Il y a deux aspects de l'évaluation scientifique qui sont importants, dont un est assez communément reconnu, l'autre, on n'en parle pas assez. Le premier, c'est la validité scientifique. Donc, est-ce que le protocole de recherche pourra répondre aux questions et hypothèses du projet? Ça, c'est la validité. Quelqu'un a fait mention aujourd'hui ou hier du fait que nos comités d'éthique devraient avoir au moins un membre qui comprenne quelque chose aux chiffres, aux statistiques, aux calculs de puissance, pour savoir est-ce que vraiment le projet est constitué de façon scientifiquement valide. L'autre aspect, c'est celui de la validité scientifique, de la valeur scientifique. Une étude peut être, et je cite ici un grand du domaine de l'éthique, Benjamin Friedman, celui-là même qui y a contribué le concept de l'équipoise, qu'une étude peut être très bien conçue et être scientifiquement valide, mais d'être d'aucun intérêt et d'aucune valeur, parce que le sujet de recherche n'est pas intéressant. J'oserais dire que dans beaucoup de cas, la recherche pharmaceutique, pas dans tous les cas, heureusement, a une très haute validité, mais pas toujours une très grande valeur. Je pense en particulier aux Me Too Drugs. Quand on est rendu à la quatrième, cinquième molécule de la même classe pour accomplir le même but thérapeutique, bon, après un ou deux ou trois, ça peut peut-être être important, ça fait baisser le prix du marché, c'est bon pour tout le monde, mais il vient un moment où c'est moins intéressant. La recherche pharmaceutique, c'est pas toujours de la recherche qui est groundbreaking et qui nous amène des nouvelles molécules qui nous permettent de contrôler des cancers qu'on ne contrôlait pas auparavant. Je mentionnerai en passant que c'est beaucoup les pressions de ce type de recherche-là qui nous amène tous à renverser la maison sens dessus-dessous à chaque quelques années pour essayer de réinventer la façon dont on fait les choses. Parce qu'eux savent comment il faut faire. Il faut aussi renforcer l'expertise éthique. Et par là, je veux dire que si on se retrouve avec un jour 5, 10 comités d'éthique dans la province, j'aurais une attente que la personne en éthique qui siège sur le comité et pas juste un éthicien, mais a une expertise dans l'éthique de la recherche, si ce n'est dans le type de recherche que ce comité d'éthique va revoir. Le même argument tient pour la personne avec l'expertise juridique. C'est une chose d'avoir une formation légale, il en est une autre, d'être versé dans les aspects légaux de la recherche. les représentants du public jouent un rôle crucial. Ils apprennent sur le tas. Il faudrait qu'on commence à se demander comment on peut entraîner ces gens-là, comment on peut les aider à jouer leur rôle. Est-ce qu'ils représentent le public en général? Est-ce qu'ils représentent les sujets de recherche potentiels de l'étude qui est sous considération à ce moment-là? Finalement, bien au-delà des critères minimum de composition des comités d'éthique, la plupart de nos comités d'éthique incluent d'autres professionnels de la santé dont l'expertise est utile ou requise pour évaluer les projets de recherche que le comité revoit. On a eu des présentations très éloquentes au cours des deux derniers jours qui nous montrent combien tous nos comités auraient besoin d'avoir une expertise en littératie. Je pense que pour vous de comité qui n'aurait pas besoin d'avoir une expertise en biobanque, il n'y a certainement pas de comité qui peuvent se priver d'expertise en protection de la vie privée, en technologie d'information et en dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, d'ailleurs, c'est une bête très étrange où on doit suspendre tout ce qu'on pense savoir sur comment une nouvelle molécule devrait être introduite chez les patients et où soudainement des nouvelles règles confuses apparaissent. Dans ce processus, je pense qu'on va être amené à se demander si nous ne serions pas tous mieux servis par des comités thématiques pour maximiser l'adéquation entre l'expertise du CER et les projets examinés. Il va falloir se demander assez rapidement, à mon avis, comment on peut faire un suivi actif significatif dans le contexte qui se dégage maintenant. On a eu pendant à peu près 10 ans un programme de suivi actif des projets de recherche et d'autres institutions l'ont fait. Et dans tous les cas, les intervenants, tant les équipes qui faisaient ces évaluations-là, que les équipes de recherche considéraient que c'était une grande plus-value. Alors, ce serait très malheureux qu'on perde ce poupon avec l'eau de la du bain. Bon. Finalement, dans toutes ces réformes, il ne faut pas cesser de se préoccuper de la formation et de l'éducation des membres des comités d'éthique, les chercheurs, les autres membres, on va peut-être argumenter que ce n'est pas la charge des comités d'éthique de les éduquer. Et je pense que, en bout de compte, même si on n'aurait peut-être pas très bien répondu à la fin des deux jours, à savoir comment on peut améliorer la protection des sujets qu'on apporte, que les comités d'éthique et que nos institutions apportent aux individus. Je pense que nous-mêmes, étant experts en éthique, devons être capables d'appliquer la roue de Deming, encore une fois, et d'examiner qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont les mesures qu'on peut se prendre qui vont nous indiquer jusqu'à quel point on contribue à la protection des sujets de recherche et s'adapter et changer nos façons de fonctionner. Je pense qu'il est très important qu'on continue pas à laisser des gens de l'extérieur de l'éthique de la recherche nous dicter comment on devrait faire les choses. Donc, pour conclure, la professionnalisation des CER, à mon avis, constituerait probablement un élément d'amélioration certainement de la qualité de l'examen et du suivi éthique, pourrait contribuer, mais ça reste à démontrer, à la protection des sujets de recherche. Et l'introduction du nouveau cadre de référence, à mon avis, constitue une opportunité très importante de prendre ce virage.